Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
Bonjour tout le monde, bienvenue, 16h03, c'est quoi? C'est peut-être le retour de la plage, c'est peut-être déjà le début de la fin de votre journée, c'est peut-être l'heure du goûter pour vous. Ah, vous venez de vous réveiller de la sieste? Eh bien bienvenue, vous avez bien fait, une bonne petite sieste. Et puis de 16h à 18h, on s'amuse, on rigole, on se détend et on apprend des choses dans cette émission. Votre rendez-vous estival de l'après-midi, tous les jours, 16h, 18h, en compagnie de Nicolas Beuters, bonjour.
Bonjour Bérénice, bonjour à tous.
Et comme tous les jours, vous allez commencer, vous allez ouvrir cette émission avec un petit tour de la presse locale.
Je vais tenter d'être sérieux, mon fils m'écoute.
Oh
ouais.
Oh là là.
Oui, ça va pas être drôle. Avez...
Il va comprendre ou...
Oui, il va comprendre, il a 21 ans.
Je crois, ah oui,
il va comprendre. Je crois qu'il comprend. Je crois qu'il comprend.
Ça commence bien. Donc, le cancre de la classe, vous l'avez reconnu, Jules-Bernard Leblond.
Bonjour.
Toujours, en fait, c'est ce qu'on peut appeler les pieds dans le plat.
Hein. Voilà. Mais écoutez, je suis arrivé, de toute façon, moi, mes enfants ne m'écoutent pas.
Non, bah donc, non, ils ont compris.
Ils ne comprendraient pas, de toute façon.
Voilà. Avec des infos pas fraîches, hein, comme vous, en même
pas
temps.
Pas fraîches, voilà. Voilà,
vous n'êtes pas frais non plus. Hein. Vous n'êtes pas très frais non plus. Très bien. Nous allons faire, évidemment, nos devoirs de vacances, comme tous les jours. Bah oui, parce que c'est l'heure des devoirs de vacances aussi avec Clara Léger. On va aller en Champagne, on va aller en Ardennes. Il y aura l'initiative du jour où on va parler de jardin, un projet de prêt de jardin solidaire et intergénérationnel. J'adore l'idée. Un bon plan sportif qui se passera dans le Lot également. On ira aussi prendre des nouvelles de Ludovic. Notre Ludovic l'éboueur, la star des réseaux sociaux qui fait son Paris-Marseille à pied pour ramasser les déchets. Et puis par deux fois, le quiz des régions avec vous, Maître Galibert, le plus sérieux de la classe.
Mais j'embrasse au passage mes enfants également.
Oh mais arrêtez avec les enfants, ah bah écoutez, mais ça suffit.
Vous écoutez,
là.
J'embrasse Jeanne et Juliette.
Spéciale dédicace. Bah allez,
oui,
super.
Enfin.
Mais
ils l'ont fait.
Mais non, mais arrêtez.
Mais
est-ce que
fait.
Moi je parle. Allez, ça suffit. Moi je parle des auditeurs aux auditeurs d'Europe 1. Soyez les bienvenus. La suite et surtout le commencement de cette arrivée près de chez vous, c'est maintenant.
Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de chez vous et près de chez vous.
On va pas commencer avec j'embrasse mes enfants, j'embrasse mes parents, enfin ça va, c'est bon, enfin, pas non plus une remise d'Oscar, de César.
Vous n'avez pas envie d'embrasser vos enfants?
Mais sûrement pas, non, sûrement pas. Nicolas, vous partagez avec nous vos longues heures de lecture de la presse régionale. Et ça, c'est bien, vous êtes courageux, vous en avez retenu... qu'est-ce que vous avez retenu pour nous aujourd'hui?
Mais d'abord, j'ai découvert la Gazette Presse Océan.
Ah.
C'est la gazette de la métropole nantaise. Et en feuilletant cette gazette, en une seule photo, je suis tombé en amour, comme disent nos amis du Québec. Je suis tombé en amour du domaine de la Garenne-le-Mau. Alors, nous sommes à Clisson. La Garenne-le-Mau, c'est d'abord une magnifique demeure construite au XIXe siècle, dont l'architecture rappelle les maisons romaines, pour ne pas dire les temples de l'Antiquité romaine. Vous voyez un peu le genre?
Complètement.
Ouais, complètement. Bon, alors, ensuite, ce domaine, c'est un magnifique parc. C'est une réserve de chasse, celle des seigneurs de Clisson, car Clisson fut une grande cité médiévale, et à l'époque, ces seigneurs aimaient chasser dans les bois. Mais ce n'est pas tout, car il est vraiment là l'intérêt de l'article que j'ai lu et que j'ai retenu pour vous. À Clisson, tout cet été, l'Office du tourisme organise des visites de la région, une région au patrimoine viticole important.
Tiens donc.
Alors, ben oui, alors juste comme ça, au cœur de la ville de Clisson, vous avez la cave des Muscadets. C'est une association qui regroupe 24 vignerons dont les vignes sont situées dans la région. Alors leurs vins sont riches, structurés, complexes, élégants et, comme on dit... aux meilleures tables, ils sont dotés d'un riche potentiel de garde. Un détail encore, la consommation de ces bonnes choses se fait avec modération, bien entendu.
On est sur... ils font ça, hein, les sommeliers.
Oui, oui. Alors là, on est sur une belle robe,
ouais,
puis on fait un peu secouer le verre comme ça.
Non, faut pas...
On l'aère.
Faut boire. Une autre info de la région, de la Bretagne, j'ai l'impression.
Mais oui,
on va en Bretagne,
on
Nicolas.
On va en Bretagne, ouais. C'est le journal breton Le Télégramme qui en parle. Le labyrinthe végétal de Plounéventerre est devenu un classique des vacances dans la région de Brest. Alors, les labyrinthes végétaux poussent pas mal en été. Vous aviez déjà d'ailleurs touché un petit mot sur celui de Lyon.
Exactement, oui, il y a quelques jours.
Exact.
Ici, notre labyrinthe végétal, il est breton. Et ce labyrinthe de Plounéventerre eh bien, il existe depuis 17 ans déjà. Ce labyrinthe, il a été dessiné dans un champ de maïs dont les plants dépassent les 2 mètres de haut, un champ de 6 hectares. Alors, le but du jeu, il est tout simple, hein, retrouver la sortie, bien sûr, sinon ce serait dommage. Et pour vous aider, le parcours est parsemé de 16 panneaux didactiques et ludiques avec des rébus, des énigmes et des infos, surtout pour sensibiliser les visiteurs à l'agriculture connectée. Ce labyrinthe, il est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Toutes les infos sur plouneventaire.fr. Et juste comme ça, le 27 août prochain, il y aura même du cochon grillé au menu.
Au menu, hein, avec du pop-corn, certainement.
Mais oui.
Bah oui, bah,
du sûrement. Pop-corn avec du cochon grillé ?
Pourquoi pas ?
Bah dans le champ de maïs.
Ah.
Oh là là. Oh, faut tout vous expliquer. Une dernière
c'est
info.
C'est gonflé, hein.
Nicolas.
Oui, une dernière info. Elle est issue, tiens, d'une dépêche qui est tombée.
Ah, elle a mis du temps.
Hein. Alors, c'est-à-dire qu'elle est tombée de haut.
Ah bon ?
Alors, cette dépêche AFP, elle nous emmène au Mont-Saint-Michel. Ah, vous devez savoir que le Mont-Saint-Michel, c'est la première destination touristique en France après Paris. Le site normand, dans le Nord-Ouest, qui fête d'ailleurs les 1000 ans de son abbatiale, accueille chaque année 3 millions de visiteurs, dont 1 million en été. En d'autres mots et d'autres chiffres, le Mont-Saint-Michel, c'est 4 km² pour 36 000 visiteurs par jour.
Ouf.
C'est beaucoup.
Ouais,
c'est... Et pour certains, c'est beaucoup trop.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que le Mont a aujourd'hui une réputation de site touristique surfréquenté.
Mm-hmm.
Voilà donc un site qui attire les visiteurs parce que trop bon, autant qu'il repousse les visiteurs parce que trop bondé. Alors donc, les Mont-Saint-Michelois ou les Michel du Mont-Saint, enfin bref, les habitants du Mont, enfin non, les responsables du site, ils ont mis en place des mesures incitatives pour étaler les visites toute la journée, car ils ont remarqué que ces visites sont surtout concentrées entre 10h et 16h. Mmh. Et parmi ces mesures incitatives, il y a quoi ? Il y a des tarifs préférentiels pour le parking avant 10h
et après 16h. On est bien d'accord. Et on rappelle que le Mont-Saint-Michel se trouve
là-bas.
En Normandie.
Et c'est ce que je
dis. Tombe la pluie et les cerisiers.
Non, c'est pas comme ça que vous chantez, Maître Galibert, normalement.
J'avais les gros yeux de madame.
Ah,
pas gueule, là, attention.
Non, on ne chante pas dans cette émission. Non, on ne chante pas. Parce que
on ne chante plus.
Non, on ne chante plus, on ne sait pas chanter. Dans quelques instants, ce sera l'heure de notre initiative positive du jour. Aujourd'hui, c'est l'association ECOS. ECOS qui propose, écoutez bien, je trouve ça drôlement bien, qui propose des jardins partagés pour favoriser les liens intergénérationnels. Je ne le dirai qu'une fois ce mot-là parce qu'il n'est pas facile à dire. On en parle juste après la pause sur Europe 1, dans cette arrivée près de chez vous.
Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de vous. Et près de chez vous.
Un matin comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville avait ce teint blafard lorsque je sortis de la gare.
Vous avez reconnu l'interprète, évidemment.
Mais bien sûr. Ça, moi, j'y touche pas. C'est trop magique.
Vous avez reconnu la chanson ? C'est Barbara, donc ?
Nantes,
exactement. Pourquoi Nantes ?
Parce que nous y sommes, j'imagine.
Vous imaginez bien. On va parler d'une association nantaise, ECOS, qui lance un projet que je trouve très très original. On prête son jardin. Ce sont donc des jardins solidaires, mais pas que prêter aussi. Vous allez voir. Ce projet s'appelle bouturage. Donc, si vous avez la main verte, faire des boutures, bouture, mais c'est bouture apostrophe âge, parce que c'est intergénérationnel.
C'est
Marianne Menant est avec nous, elle est chargée de projet pour l'association ECOS. Bonjour Marianne.
Bonjour à tous.
Alors Marianne, là dans ce qu'on a, dans ce que j'ai expliqué, à savoir on prête son jardin, donc c'est un jardin solidaire, c'est entre les générations. Le principe c'est quoi ? C'est-à-dire que si on a un jardin, on a une petite parcelle, et puis on se dit, bah, tiens, on va le prêter à quelqu'un qui n'a pas de jardin. En gros, j'imagine que c'est ça.
Exactement. En fait, on a fait le constat que à Nantes notamment, il y avait des listes d'attente pour les jardins familiaux qui étaient extrêmement longues, de plusieurs années. Et en face, il y avait des jardins de particuliers qui étaient sous-exploités parce que on est trop âgé pour jardiner ou tout simplement on a envie d'avoir de la compagnie. Et donc on a mis ces deux besoins face à face et on a créé bouturage. Exactement.
Ça fait combien de temps que ça existe ?
Eh bien, notre association date de 2006 et bouturage a commencé en 2012.
Et vous avez beaucoup de participants, ça a bien... Enfin, 2012, ça existe encore, j'imagine que ça fonctionne bien.
Alors oui, tout à fait, ça fonctionne bien. Donc on est uniquement sur Nantes. En termes de participants, en fait, il y a pas mal de monde parce qu'il y a des personnes qui s'inscrivent, mais il y a aussi toutes les personnes qui gravitent autour, donc la famille qui vient jardiner, les proches, les amis qui viennent visiter. Donc on est à peu près à 200 personnes au total sur ces jardins.
Et est-ce que vous avez plus de demandes que d'offres ou l'inverse ? Comment ça se passe ?
Oui, effectivement. On a beaucoup de jardiniers et de jardinières en attente, donc qui souhaitent avoir une parcelle, et un petit peu moins de jardins en attente, parce que parfois, en fait, on ne se rend pas forcément compte qu'on a besoin d'aide, ou on n'ose pas demander de l'aide, ou tout simplement, on ne connaît pas notre dispositif et ça ne vient pas à l'esprit. Souvent, c'est les familles qui font appel à nous, puisque, comme vous disiez, c'est intergénérationnel. Donc, c'est souvent des jardins de personnes âgées, mais pas que, qui sont mis à disposition de familles, de couples ou de personnes seules.
Jules,
quelle taille font ces jardins en moyenne ? Ce sont des grands jardins ? Vous pouvez accueillir combien de personnes par jardin ?
Eh bien, c'est complètement variable. En fait, on est vraiment sur du cas par cas. C'est de la relation très, très particulière. On peut avoir des tout petits jardins d'une dizaine de mètres carrés en arrière de maison, puisque c'est en ville, forcément, donc on n'a pas beaucoup d'espace. Mais aussi des plus grandes parcelles, puisqu'on travaille aussi avec des structures médico-sociales. Donc là, des EHPAD, des résidences seniors ou des ITEP. Et donc là, ils peuvent avoir des plus grands parcs. Et là, on peut accueillir plusieurs jardiniers à la fois.
Nicolas.
Et justement, en parlant de jardinier, qu'est-ce que l'on jardine, qu'est-ce que l'on cultive dans ces jardins prêtés ? Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut ? Ou alors est-ce qu'il faut toujours, bien sûr, un gentleman agreement, comme on dit ?
Comment dites-vous ?
Un gentleman farmer agreement. Oui, ce que je veux dire. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut ? Ou alors est-ce qu'il y a quand même des choses un petit peu à respecter ?
Il y a des trucs qu'on ne peut pas planter quand même, attention.
Et bien justement, l'association est là pour ça. En fait, nous, on agit vraiment comme un médiateur entre le prêteur et le jardinier. Pour que tout se passe bien dans la relation, on met en place une convention. Donc, on écrit toutes les petites choses, l'accès à l'eau, le partage des récoltes, le type de culture, justement, donc potager ou pas, ce genre de choses. Tout est écrit pour éviter les malentendus, pour éviter les conflits et vraiment favoriser la communication. Donc, bien souvent, c'est des jardins potagers, mais pas que. Il y a aussi des personnes qui préfèrent l'ornemental et des gens qui mélangent les deux. Mais en tout cas, on essaye d'encadrer au maximum la relation pour que tout se passe bien.
Marianne, j'ai l'impression qu'autour de cette table, on a beaucoup de jardiniers en herbe, j'ai envie de dire. Restez avec nous si vous voulez bien, Marianne. Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, on parle de l'association nantaise ECOS qui a lancé depuis 2012 un projet qu'on trouve très intéressant et c'est pourquoi on voulait vous mettre en avant. C'est le projet Bouturage avec Marianne. Jules.
Marianne, j'ai une question pour vous. Si je suis un très mauvais jardinier et que je veux malgré tout planter des tomates par exemple, quelque chose, est-ce que je peux prendre des cours de jardinage avec vous ? Enfin, avec vous.
Absolument. Alors, peut-être pas avec moi particulièrement, mais avec Claire-Marie, c'est tout à fait possible.
C'est pas ce que je voulais dire,
J'ai bien compris. C'est justement facilité pour les participants au projet Bouturage. Pour ces participants de près de jardin, c'est gratuit pour eux les cours. Donc il y a un cours par mois sur toute l'année et ça permet vraiment d'apprendre à gérer son potager de A à Z. Donc même pour les personnes débutantes, c'est tout à fait possible.
C'est drôlement bien. Nicolas.
Oui, alors Marianne, vous nous avez donc présenté ce partage de jardin, mais vous avez aussi dit, et ça c'est important, partage de récolte.
Et oui, effectivement. Alors encore une fois, c'est du cas par cas. Donc certains propriétaires ne sont pas intéressés pour avoir des récoltes et laissent vraiment tout au jardinier. L'idée, c'est quand même que le jardinier qui cultive récolte le maximum de ses productions, mais il peut partager les productions, le surplus ou une partie ou seulement un type de fruits et légumes avec le propriétaire.
Et s'il n'y a pas de récolte ou s'ils ne veulent pas, il y a peut-être d'autres petits trucs à faire, genre tondre la pelouse, tailler les haies, on peut s'arranger comme ça ?
Oui, absolument. En fait, on met aussi en place un petit principe qui est que le jardinier, puisqu'il vient gratuitement sur la parcelle de la personne ou de la structure, puisse proposer de menus services. Donc, effectivement, tailler une haie, faire des petites courses. Si c'est dans une structure médico-sociale, proposer une animation par trimestre, par exemple.
Maître.
Non. Moi, je ne bine pas, je ne laboure pas, donc je vous bêche.
Vous me bêchez. Oui. Ok, très bien.
Est-ce qu'on peut utiliser des engrais, par exemple, ou est-ce qu'on est obligé de faire du bio voyez ce que je veux dire? Est-ce que je peux utiliser du je sais pourquoi,
comment ça s'appelle? Personne n'utilise
des engrais.
Non, c'est que du bio. Du compost fait maison.
Alors?
Eh ben, des engrais naturels, oui, mais effectivement, comme vous l'avez compris, on promeut le jardinage au naturel. Donc, pour favoriser aussi la biodiversité en ville, hein, on pêche tout ce qui est produits phytosanitaires. Et justement, dans les cours de jardinage au naturel, on apprend comment faire sans tout ça.
Dites-moi, est-ce qu'il y a une durée d'engagement? Est-ce qu'on peut faire ça, voilà, juste une fois,
on essaye,
ou trois jours? Mais oui, mais si.
La récolte, elle est très courte.
Mais si on trouve qu'on n'a pas du tout la main verte et que ça ne va pas, voilà, est-ce qu'on est obligé de s'engager sur du long terme?
Alors, il n'y a pas d'engagement. Par contre, vu qu'on est quand même sur une relation sociale et on rentre dans l'intime de la personne, son jardin, on prend quand même soin de sélectionner les personnes pour faire en sorte que ça colle ensemble. On organise des rencontres. Donc, on vise quand même un peu de long terme. Par contre, il y a toujours une période d'essai. Donc, si on se rend compte au bout de quelques semaines, effectivement, que ça colle pas avec ses aspirations, il n'y a aucun souci, on peut arrêter. Mais on essaye quand même de privilégier le fait que la rencontre puisse durer.
C'est un super projet. On voulait en parler, on voulait vous mettre en avant. Alors, Marianne, pour les auditeurs d'Europe 1 qui sont nantais, qui ont envie peut-être de partager leur jardin. D'autres auditeurs qui sont ailleurs, peut-être à l'autre bout de la France et qui se disent, bah tiens, ce serait pas mal de faire ça chez nous. Comment peut-on vous contacter? Où peut-on trouver toutes ces informations? J'imagine que vous avez un site.
Absolument. On a un site internet, ecosnantes.org. Pour les personnes qui sont ailleurs en France, effectivement, on ne va pas pouvoir faire le prêt de jardin chez vous. Par contre, vous pouvez développer votre propre projet de prêt de jardin. Mmh. On a mis en place un kit gratuit, accessible en ligne, pour que toute association ou collectif d'habitants puisse dupliquer le projet, donc puisse faire de l'essaimage. Ça a déjà été fait sur Rouen, sur Metz, sur Quimper, par exemple. Et pour les personnes qui habitent à Nantes, vous pouvez venir directement nous rencontrer tous les mercredis après-midi à notre pépinière de quartier à Doulon. Toutes les informations sont sur le site internet. Nous contacter bien sûr par téléphone ou par mail. Et puis, pourquoi pas devenir adhérent à notre association.
ECOS, c'est E-C-O-S. Merci beaucoup Marianne et Dieu que vous êtes jolie. Marianne, chargée de projet pour l'association ECOS. Dans quelques instants, Jules, j'espère que vous êtes prêt.
Oui, c'est vrai. Je suis un peu troublé par toutes ces histoires de jardinage.
Avec vos nouvelles,
ça me donne plein d'idées.
Pas fraîches, des infos insolites, certes, mais drôle et surtout véridique, ce qui est totalement incroyable. Restez avec nous, c'est la suite de cette arrivée près de chez vous sur Europe 1.
Un, deux, trois.
Savez-vous ce qui arrive?
À 16h27, non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas quoi ce qui s'est passé, mais nous allons bientôt le savoir. Certains aiment les nouvelles fraîches. D'autres, moins, beaucoup moins. Et c'est le cas de Jules Bernard Leblond qui est avec nous tous les jours. Et par deux fois, vous nous ressortez de vos vieilles poubelles des infos insolites, mais drôles et surtout véridiques. C'est dans le passé, c'est sous forme de quiz. À nous de trouver quelle est la fin de l'histoire avec plusieurs propositions que vous allez nous faire. Attention, ça peut surprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que c'est?
Qu'est-ce qui s'est passé à Trans-en-Provence?
À Trans-en-Provence.
Oui. Sauf que là, je n'ai pas fait des trois possibilités, c'est fait sous fake. Voilà.
Okay.
Parce que
super,
qu'on m'a changé mon truc et j'ai pas fait attention. Alors, à Trans-en-Provence, dans le Var. Nous sommes donc dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, département numéro 83. Il y a un supermarché. Et le 20 mai 2022, il y a un client qui est passé à la caisse sans payer.
Ouf.
Ouais, je vous jure.
Bon, ça...
C'est pas, ce fait n'est pas rare. Hein, ça constitue presque un fait divers anodin. Hein, il ne s'agissait pas d'un vol. Tellement anodin que n'importe qui peut tenter le coup. Écoutez bien, et là, comme en témoignent les vidéos de surveillance, on voit le voleur, c'était un génie à faire pâlir de jalousie Ocean's Eleven et compagnie. Son plan, attendre patiemment son tour à la caisse avec son chariot, et au bon moment, quand le client devant lui est parti, paf, s'élancer avec son chariot.
Et courir.
Pas un bon plan, ça. Hein? Donc déjà, le plan est foireux. Mais comme le gars, un futé, donc vous l'avez compris, se dit que c'est un one-shot, évidemment, il a blindé son chariot comme jamais. Pas facile de prendre de la vitesse avec un chariot de 150 kilos. Du coup, il a fait 5 mètres. Record absolu jusqu'à ce que le vigile l'arrête. Fresh news ou fake news?
Bon,
pas, déjà qu'un chariot, ça va jamais droit, c'est pas possible, non. Non,
bah, il a peut-être repéré son chariot avant. Peut-être que voilà,
oui,
il a
peut-être fomenté le coup.
Enfin, il est peut-être passé au stand avant.
Oui, mais courir pour aller jusqu'où il se ferait rattraper au bout de 10 mètres. Jusque
son. Claque dans le fourgon. Personne n'est assez stupide pour penser à le faire ça. C'est-à-dire qu'il est juste à la caisse avec son chariot.
Et c'est faux.
Allez, j'y vais, c'est mon tour.
Non, mais si ça se trouve, comme personne ne s'attend à ce que.
Plus c'est gros, plus ça passe.
Plus c'est gros, plus ça passe. Vous parlez de quoi?
Ben, du caddie.
Bien sûr, bien sûr. Ouais, moi, je dis vrai. Vous dites maître, archifaux, Nicolas.
Vrai.
Ouais,
vrai.
Moi, je dis vrai aussi.
Mais ben, c'est maître Pierre qui avait raison.
Bien sûr. Enfin,
quand les gens n'ont plus d'imagination.
Mais attention, ce n'est pas un.
La vraie news, la voici. Ce n'est pas un, mais plusieurs clients qui sont sortis du supermarché sans payer.
En même temps?
Ce 20 mai 2022, oui. Pendant 30 minutes, un flot ininterrompu de gens quittaient le magasin sans payer.
Oui, mais c'était une promo.
Un bug informatique.
Un gang du caddie plein. Hein? On joue sur le nombre pour s'en sortir. Non, c'était pas ça. À la caisse, à deux pas du terminal de paiement, une dame, une inconnue, attendait. Quand les clients arrivaient, au moment de payer, c'est elle qui payait avec sa carte.
Oh. Mais pourquoi?
Ah, pendant 30 minutes, elle a payé tous les caddies de tous les clients.
C'est pas vrai.
Je vous jure que c'est vrai.
Ah, moi je crois que c'était parce que parfois dans certains magasins
il y a des promos. Ouais. Vous pouvez dire, vous prenez tout ce que vous voulez
heure,
pendant 10 minutes.
Oui, 10 minutes, une heure c'est beaucoup.
Payer, partir sans payer. Elle s'expliquait, parce qu'évidemment il y a quelqu'un qui lui a demandé, et donc elle s'expliquait à une cliente en lui disant qu'elle avait gagné au loto, en fait, et que ça lui faisait plaisir de
faire
ça.
Plaisir.
Ouais. Tout simplement. Voilà, d'ailleurs, depuis dans ce supermarché, on n'appelle plus les chariots des caddies, mais des cadeaux.
Je vais prendre un cadeau.
C'est une belle histoire.
Ben oui, c'est sympa comme petite histoire. Allez, je vous emmène à Dijon pour une autre petite histoire. Willy Joly, un Dijonais. On est dans la
Côte d'Or.
La Côte d'Or, j'allais dire Côte d'Armor 21, Bourgogne-Franche-Comté. Willy Joly, 43 ans, s'est vu offrir sa cérémonie de mariage par la mairie.
Ah bah lui aussi.
Oui,
c'est la même dame ou quoi?
Non, il a été le premier à se marier après la fin des restrictions sanitaires.
Ah,
avec le Covid, le nombre de mariages avait été réduit à zéro. Nombre de mariages qui étaient repartis à la hausse de partout, sauf à Dijon.
Ah bon ?
Mais oui, dans un communiqué de presse d'ailleurs, François Rebsamen, le maire de Dijon, avait déclaré les larmes aux yeux, l'amour tarde à Dijon. C'est là que j'ai hésité longtemps.
Non, allez bien.
Vous avez été inspiré par Maître Galibert ?
Je ne sais pas. Fresh news ou bien fake news ?
Fraîche, moi je dis vrai. Nicolas ?
Fraîche.
Voilà. Allez, je vous ai eu, c'est une fake news.
Oh.
Willy Joly et son fils Lenny Joly, parce qu'ils s'appellent tous les deux Joly, c'est son fils, c'est normal. Ils n'ont jamais autant tiré, ils sont même champions d'Europe, or et bronze, de tir à la Sarbacane. Voilà ce qui est arrivé ce jour-là. Ils auraient même déclaré, c'est quand même pas con comme sport. Hein. Les hommes poursuivent ce temps qui court depuis toujours, ils ont dit. Voilà que t'arrives et que tout s'éclaire sur mon parcours.
Oh non, pardon. C'est pas...
Je confonds, ça c'est Francis Cabrel. C'est pareil, je suis désolé. Bref, voilà, la flèche vole à 150 km/h en sortie de Sarbacane. Donc on a quand même des champions d'Europe, c'est énorme. Ils sont en famille. D'ailleurs, un autre communiqué de presse de François Rebsamen, donc le maire, aurait déclaré « Personne ne peut prétendre atteindre cette vitesse, on parle de la flèche, même pas les motards de Dijon. » Voilà. J'ai tout donné sur Dijon.
Ah ben jusqu'au bout.
J'ai décidé de tout placer là, c'était là.
Parce qu'il y avait aussi le haut Dijon et le bas Dijon.
Voilà. Mais...
Oh là 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 là. Non mais il y a battle ou quoi? Oui là, franchement... Mais aidez-moi, faites quelque chose.
Je suis désolé.
Vous qui nous écoutez.
C'est Pierre, il est à côté de moi au bureau. Et...
Du coup,
j'écris des trucs.
Il faut nous séparer, Jules.
Oui, on va vraiment vous séparer. Mais vous restez vraiment avec nous pour la deuxième heure, Jules ?
Ouais, on va aller à Montpellier.
Oui, je sais pas. franchement, je sais pas.
Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
Allez entrer, les enfants, et arrêtez de vous chamailler.
Okay.
Avancez dans le calme, je sais que vous en êtes capable.
Oula.
Asseyez-vous tranquillement, chacun sa place, ça y est.
Ça fait le droit.
Écoutez-moi, mais ce matin, n'ouvrez pas vos cartables.
Ah! bonheur, bonheur. C'est pas notre maîtresse qui nous dirait ça. Hein. Clara Léger a fait son entrée dans le studio. Bonjour Clara.
Bonjour Bérénice. Bonjour à tous.
Bonjour Clara.
C'est l'heure de faire nos devoirs de vacances avec vous, maîtresse Clara. Vous allez nous faire découvrir une nouvelle expression de nos régions.
Oui, avant-dernier jour pour tenter de remporter le cadeau de la semaine, puisque je rappelle les règles du jeu. Chaque jour, je vous fais deviner le sens d'une expression régionale. Je vous propose deux réponses. Si vous avez une bonne réponse, vous gagnez un bon point. Si vous avez la mauvaise réponse, vous récoltez un mauvais point. Cette semaine, je vous offre un cadeau fort utile. Rappelez-vous, si vous êtes en vacances au bord de la mer, ce qui n'est pas du tout notre cas, donc qui est très inutile pour vous, mais ce n'est pas grave. Puisque nous sommes à Paris, nous sommes en intérieur. Ce cadeau, c'est un slip de bain européen.
On va à la piscine, moi je le prendrai pour la piscine.
Pour l'intérieur.
Il y a la oui, juste pour traîner sur votre canapé, c'est pas mal
vous
aussi.
Vous baladez en slip de bain chez vous.
Pourquoi pas ?
Vous ne m'invitez jamais.
Alors, expression du jour, que signifie le verbe s'empierger ?
S'empierger ?
S'empierger.
C'est un pote, il s'appelle Pierger, et c'est sans lui.
Est-ce réponse A, tomber, perdre l'équilibre, ou réponse B, se noyer ?
S'empierger, moi je dis tomber, perdre l'équilibre. Jules ?
Ouais.
Tomber aussi.
Tomber.
Ouais.
Et vous, Nicolas ?
Se noyer.
Se noyer.
Non, je tomber.
Tomber. Bravo, Bérénice. Pour une fois, vous avez une bonne réponse.
Oh, mais je voulais pas. Moi, je ne le veux pas,
vous
ce cadeau.
Vous avez gagné un slip.
Pas de encore, bas. On verra non, ça de
mais sans... c'est un slip homme ou un slip femme ?
C'est un slip unisexe, disons.
Ça n'existe pas.
Non,
mais on l'invente.
Voilà. Voilà. C'est s'empierger. C'est donc un verbe qui désigne l'action de tomber ou de perdre l'équilibre après s'être pris les pieds dans un obstacle, alors comme une branche d'arbre, une pierre, une marche d'escalier, un plot.
Je suis tombé.
Attendez, fallait la petite illustration sonore.
Non mais vous mettez pas Matt Pokora après Plot quand même.
Ah non, pardon, franchement, non, c'est juste parce qu'il dit qu'il est tombé. Pas,
non. Non, alors pour Pierre Maître Galibert, Pierre, le titre c'est Tomber.
Oui.
Mais c'est pour ça.
Ah, je crois que ça va
tomber. Non, pas du tout.
Matt Pokora, il chante le Plot.
Non, Matt Pokora, il chante qu'il tombait. Alors, j'ouvre une petite parenthèse très personnelle. J'embrasse ma grand-mère qui nous écoute.
Oh non,
mais attendez, parce que ma grand-mère passe sa vie à s'empierger. Donc, je la salue avec beaucoup de tendresse, puisqu'elle s'empierge régulièrement. Bref. S'empierger, c'est un verbe et une expression qui sont employés en Champagne et dans une partie des Ardennes.
Ah bon, mais d'où vient ce verbe ?
Alors, la science ne le dit pas vraiment. Enfin, la science. Le français. S'empierger, ça viendrait de l'ancien français empiéger.
Le
qui
François.
Signifie prendre au piège. S'empierger était déjà un verbe employé par Diderot en 1768 dans ses lettres à Sophie Vallant. 1768, ça ne nous rajeunit pas, sauf pour Pierre Galibert.
Alors, je vais vous dire une chose, Clara. Méfiez-vous. Je connais personnellement la direction de cette chaîne.
Excusez-moi.
Et je peux faire un rapport à la direction d'Europe 1.
Très bien. Vous pouvez y aller. Plus largement, s'empierger, ça peut aussi signifier qu'on s'embourbe, qu'on est pris dans les problèmes. Ça marche aussi pour ça. À l'inverse de s'empierger, on peut se dépierger.
Oui,
quand
là,
on est empiergé, on se dépierge.
Vous n'êtes pas prête de vous dépierger.
Non, là,
vous
vous empiergez, mais profond. En Bourgogne et en Franche-Comté, on dit le verbe empiger pour désigner la même chose. Et dans quelques endroits des Alpes, on dit le verbe s'encoubler. Ça marche aussi pour tomber. On s'encouble.
On s'encouble.
Où ça, dites-vous qu'on dit ça,
les dans les Alpes.
Dans les Alpes, s'encoubler.
On s'encouble et on s'empierge. On apprend des choses, hein, quand même. On s'empige, c'est pas mal. Je vais vous laisser retourner à votre bureau de maîtresse.
J'y vais tout de suite.
Partez vite sur la pointe des pieds, parce que sinon, avec Maître Galibert, ça
non,
va pas.
Non, mais
le
m'en veux pas.
Mais non, ouais. Pas du tout.
Voilà,
mais il a le bras long. d'ailleurs, ça va être à vous, Maître. Un petit peu de concentration, s'il vous plaît. Le quiz des régions, c'est la suite de cette arrivée près de chez vous sur Europe 1. Vous venez peut-être de nous rejoindre sur Europe 1. C'est une bonne chose. Bienvenue à vous. Et pour vous récompenser, on a quelques cadeaux à vous offrir. Bon. Pour cela, il faut vous inscrire, évidemment, pour qu'on puisse vous rappeler. Vous vous inscrivez au quiz des régions en envoyant un SMS avec le mot-clé « région », bien sûr, au 7 39 21, 75 centimes plus le coût d'un SMS. Vous mettez votre prénom et votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler et vous jouerez avec nous. Ce sera une destination. Nous ne la connaissons pas, on va la découvrir ensemble. Maître Galibert a concocté un questionnaire sur c'est même pas une région, c'est une ville carrément, mais à nous de trouver la région, le département et puis la ville. Maître.
Alors pour la région, voyons si vous avez bien retenu nos leçons du mois de juillet.
Oula.
C'est la région BFC.
Bourgogne-Franche-Comté.
Oui, bien
Bourgogne-Franche-Comté.
Bien évidemment, bien évidemment. Nous sommes chez les Nivernais, nous sommes donc dans le département de la
Nièvre.
De la Nièvre.
Ça, oui.
Et figurez-vous que dans la Grande Vadrouille, La scène de l'échange des chaussures a été réalisée sur la route départementale 958 à hauteur du hameau de Drémont dans la Nièvre. Mmh. Et ce n'est pas la Nationale 6 qui passe plus au nord, comme semble l'indiquer la borne sur laquelle est assis, je ne sais pas si vous avez le souvenir,
Louis de Funès est assis sur la borne.
Quand et... il change de chaussures, et vous vous souvenez de cette réplique, vous chaussez du combien ? Du comme vous,
du
répond
comme vous,
Louis de Funès. Alors on va voir si vous connaissez bien votre grande vadrouille, les uns et les autres. Là, hein.
Oui.
Je vais vous donner une réplique et vous allez devoir me la resituer dans le film et me raconter la scène.
Ah.
Bérénice, cette réplique, c'est « Il n'y a pas d'hélice, hélas, c'est l'Achélos ».
Il n'y a pas d'hélice, hélas, c'est l'Achélos.
Ah, j'adore.
Alors,
j'adore. Alors cette réplique, c'est à la fin du film, c'est quand ils vont partir et décoller en planeur.
Exact, parfait. Jules, but alors, you are not French.
But alors, you are French.
Ah merde alors, comment on dit
comment
ça?
Comment ça merde alors? But alors, you are French.
Là, on est dans les, c'est le début du film, on est dans les bains.
Oui.
Et donc, ils viennent chanter Tea for Two. Sûrement, ils se cherchent l'un l'autre comme ça. Et puis, ils parlent. Et puis, alors évidemment, on entend qu'ils parlent français. Et ils se découvrent. But
exact.
Alors, you are French.
Nicolas, c'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais.
C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. On
Alors. Bah, c'est Stanislas Lefort, c'est le chef d'orchestre, Herr Kapellmeister. C'est comme ça qu'on le surnomme en allemand, puisque nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. Et c'est quand on le présente, magnifique chef d'orchestre, à l'Opéra de Paris.
Non, mais alors, maître.
Dites-moi.
Désolé de vous interrompre, mais là, j'ai l'impression que vous êtes en train de marcher sur les plates-bandes.
Oui, c'est vrai qu'il parle un peu cinéma, notre ami.
De Nicolas.
Oui, oui, oui.
Nicolas, j'ai envie de tenter un truc, là.
Oula. Vous faites Bourville, j'ai fait les funesses.
Non, l'inverse. Et je vais sur vos épaules. Non, c'est pas ça, mais parce que si on parle de la grande vadrouille et là vous situez la Nièvre.
Ah, les lieux de tournage.
Les lieux de tournage. Vous pourrez nous faire ça pour demain.
Demain.
Vous aviez prévu
vous
quoi
êtes, vous êtes en train de me dire que ce soir, je dois regarder la grande vadrouille pour préparer ma chronique de demain.
Bah,
vous savez quoi, je vais le faire.
C'est pas vrai.
Mais oui. Parce
mais
que il n'y a pas de contrainte à regarder la grande vadrouille.
Non,
moi, je pourrais regarder
non.
la grande vadrouille tous les soirs. Eh ben, je le fais. Je demain.
Vous le faites et demain vous
demain,
le faites.
Je vous parlerai de la grande vadrouille
génial.
Et des lieux de tournage de la grande vadrouille.
Ah cool. Génial.
Ah,
bon,
c'est bien.
Alors nous nous arrêtons dans la préfecture de la Nièvre. Nous sommes à Nevers.
Nevers, ce sera donc la ville avec laquelle vous allez jouer si vous vous êtes inscrit en envoyant région par SMS au 739-21. C'est bien ça. Moi, j'aime bien. Lancer des défis. Enfin, c'est comme moi qui dois lancer des défis. C'est vous, vous ne pouvez pas me lancer de défis. Dites donc, si on parle de rock, si on parle de funk aussi, de disco, de chansons françaises, tout de suite, hop, on pense à Patanjali. Patanjali qui vous donne rendez-vous tous les soirs dès 20h sur Europe 1. Europe 1 Music Club au programme. Tous les tubes de l'été, la story d'une chanson, d'un album ou d'un artiste iconique et du live exclusif avec des enregistrements culte, tout droit sorti des archives d'Europe 1. Donc rendez-vous dès ce soir sur Europe 1 à 20h.
Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
Nevers, c'est la destination. Et messieurs, je vous propose que nous y allions en compagnie de Patricia. Bonjour Patricia. Allô ? Allô, allô, allô une fois. Allô, deux fois.
Allô,
allô bonjour.
Patricia, enfin.
C'est Patricia ?
Bonjour, oui.
Voilà. Vous étiez où ? Vous étiez partie où, Patricia ?
Non, j'étais là, mais j'ai des problèmes avec mon téléphone.
Ah, ben oui, voilà, c'est ce que je me disais. Dites donc, Patricia, je ne sais pas si vous avez entendu, mais aujourd'hui, c'est le jour des messages personnels. Donc, les garçons ont fait des petits coucous avec leurs enfants. Clara, sa grand-mère, vous, allez-y, comme ça c'est fait. Vous avez un petit bonjour à faire ?
Un petit bonjour à faire.
Non, mais bah, cherchez pas, hein, sinon.
Je vous dis bonjour à vous.
Eh ben voilà. Eh ben voilà, voilà. Mais on vous salue également. Patricia, vous êtes dans le Puy-de-Dôme, près de Clermont.
Oui.
Est-ce que vous connaissez Nevers ?
Ok,
on dirait
que d'accord,
non.
On a compris.
On dirait que non.
Mais,
voilà.
Là, vous êtes où ? Parce que j'entends des gens derrière vous. Vous êtes où ?
Non, c'est que je n'ai pas éteint la radio, donc je me déplace et je l'éteins.
Alors, déjà des très mauvais points pour Patricia, elle n'a pas éteint la radio, elle ne répond pas quand on lui dit allô. Je pense que je vais retirer ces points sur votre résultat final, Patricia.
Oubliez.
Bien sûr. Je vous laisse en compagnie de Maître Galibert et je vous souhaite bonne chance.
Patricia, merci. Question. Une des spécialités de la ville de Nevers est la chaussure. La fameuse botte de Nevers. Vrai ou faux?
Non. La botte de Nevers, c'est une passe d'armes.
Exactement, une combinaison de coups. Non, elle a gagné. Une combinaison de coups.
Non, mais là, le réalisateur El Bebe, que nous saluons ou pas, il est à deux jours de la quille, lui. Donc, vous voyez, il prépare déjà ses vacances et il est à l'ouest. Mais
un mauvais coin pour lui.
À l'extrême ouest.
C'est une combinaison, donc, un escrime inventé par Paul Féval, auteur du livre Le Bossu. Le Bossu.
Oui.
Un point, bravo. Question numéro 2. Nevers fut au XVIIe siècle la capitale française de la faïence. La faïence porte le nom de la ville de Faenza, où elle fut rendue célèbre. Ville qui se trouve petit a en Espagne, petit b en Italie.
En Italie, je...
Oui, madame, oui. Cinq ateliers perpétulars de la faïence aujourd'hui à Nevers.
À Perpétu. Là.
Oui, non, pas le perpétulaire.
Et par...
Ça vous l'a fait aussi.
Oui, oui,
oui, oui. Voilà.
Patricia, est-ce que je vous offre un négus?
Pardon. Restez correct avec les auditeurs, s'il vous plaît. Hein.
Patricia.
Comment écrivez-vous ça?
Est-ce que je vous offre un négus? N-E-G-U-S. Le négus, c'est en fait le négus de Nevers. C'est un caramel mou parfumé au chocolat enfermé dans un caramel dur.
Ah oui,
d'où vient ce nom de négus? Petit a, c'est le nom latin du caramel. Petit b, c'est le nom de l'inventeur de ce bonbon. Petit c, c'est le titre porté par le souverain éthiopien.
Oui, je pense que c'est la troisième réponse.
Exact, elle est très très forte cette Patricia. Créée en 1900, ce bonbon doit son nom à la venue prestigieuse d'un empereur en visite officielle à Nevers. En 1902, l'empereur d'Éthiopie surnommé le négus.
Dites donc, maître, là, vous avez fait une promesse, il faut la tenir.
C'est-à-dire?
Vous avez demandé à Patricia si elle acceptait que vous lui
offriez. Je n'en ai pas avec moi.
Ah, bravo. Ah, voilà.
Patricia est peut-être partie pour un sans faute.
Peut-être,
hein.
Peut-être.
Mine de rien. Quatrième question, 4 points, Bernadette. Patricia.
Il n'y a rien en commun.
Si, vous allez comprendre.
Ah, oui, vous avez...
Tu changes 12 lettres à Patricia.
Bernadette Soubirou.
Voilà.
On l'a perdu.
Sainte Bernadette, qui a vu la Vierge, était née à Lourdes. Par la suite, afin de réaliser son désir de vie religieuse, Bernadette va passer 13 ans chez les Sœurs de la Charité, ici à Nevers. Et Patricia, le spectacle Bernadette de Lourdes a déjà eu beaucoup de succès à Lourdes et sera joué à la rentrée à Paris au Dôme et en tournée dans toute la France. Patricia, qui a composé cette comédie musicale? Petit A, Richard Cochante. Petit B, Pascal Obispo. Petit C, Grégoire. Ou petit D, Gérard Presgurvic.
Je dirais peut-être Grégoire.
Mais vous avez la bonne réponse.
Oh là là. C'est pas avec Natacha Saint-Pierre?
Je crois pas. Je ne sais pas quelle est la distribution à venir.
D'accord.
Richard Cochante, on lui doit Notre-Dame de Paris.
J'ai posé mes yeux sur sa robe de guitare.
Pascal Obispo a composé les 10 commandements.
Ce sera
Et Gérard Presgurvic, Roméo et Juliette.
Tout est l'amour qu'il a dit jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour cette
vie? Alors, 1 plus 2 plus 3 plus 4, c'est un sans faute. Patricia, oh là là. Bien joué. Mais vous connaissez Nevers sur le bout des doigts?
Non, c'est de la culture générale.
Mais la modeste Bernadette.
Au bout de ses doigts, il y a peut-être.
Très chouette.
Ouais, au bout de ses doigts, il y a peut-être un clavier. Et au bout du clavier, il y a peut-être.
Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non.
La classe.
Ah, ça, c'est la classe
bravo,
à Dallas.
Bravo, hein. Patricia.
Là, franchement, Patricia, on vous félicite. 10 points, mais voilà, c'est pas mal. Vous êtes bien parti pour repartir avec le panier garni. C'est un panier garni intitulé Loup de mer.
Il n'y a pas de négus dedans.
Non, malheureusement. Non. Malheureusement. Il y a de la fleur de sel de Guérande, il y a un pot de caviar marin, de carottes et wakame, il y a un tartare d'algues au capre, un pot de rillettes de merlu. Bref, il faut aimer les produits de la mer, on est d'accord. Mais, Patricia, il y aura un autre candidat, une autre candidate dans la deuxième heure de cette émission qui va peut-être marquer également 10 points. Auquel cas, ne vous inquiétez pas, on vous départagera. On vous retrouve tout à l'heure, Patricia. Bravo encore. Et oui, bravo. Quand je dis tout à l'heure, c'est parce que dans quelques instants, on va s'informer. Mais on va se retrouver, bien sûr, après 17h, en compagnie de Nicolas, Jules et Maître Galibert.
Europe 1, c'est arrivé près de chez vous.
Et nous entamons ensemble, et avec vous peut-être qui venez de nous rejoindre sur Europe 1, la deuxième heure de cette arrivée près de chez vous, votre rendez-vous estival de l'après-midi, tous les jours, du lundi au vendredi, entre 16h et 18h. On vous parle de région, on vous parle de tradition, on vous parle d'initiatives locales, on vous parle de bons plans également. Vous l'aurez compris, on rigole, on s'amuse, mais nous apprenons beaucoup de choses dans cette émission, toujours accompagnée de Nicolas Beutars. Nicolas, vous allez nous emmener près de chez nous, près de chez vous, qui nous écoutez, pour faire découvrir des anecdotes de tournage.
Oui. Oui, tournée de Calvados. Non, enfin, nous allons sur un tournage qui s'est passé dans le Calvados.
Oh là là, vous m'avez fait rêver deux secondes. Notre bon plan du jour, je vous le disais, c'est un football, mais très très insolite. On fera le point avec Ludovic, notre éboueur, sur son défi de dépolluer les routes entre Paris et Marseille. Il fera un Tour de France aussi, mais des infos insolites, c'est Jules Bernard Leblond avec le quiz qui s'est passé. Et puis, le quiz des régions, ce sera avec vous, Maître Galibert. Bon, c'est le programme de la deuxième heure de cette arrivée près de chez vous. C'est parti sur Europe 1.
Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de chez vous et près de chez vous.
Cinéma ! Cinéma ! Oui, je sors, je suis cinéma !
C'est arrivé près de chez vous avec notre jingle Benoît Poulvorde. Et comme tous les jours, Nicolas, entre cinéma et tourisme, nous revisitons un classique du cinéma français et nous redécouvrons ou découvrons le village où ce film a été tourné. Cet après-midi, vous nous emmenez en Normandie boire un petit verre. Oh là.
Ben oui, je vais vous faire rêver là quand même.
Jean-Paul ?
Ben oui, Jean-Paul Belmondo.
Jean-Paul Belmondo.
Aigloueur des fusillés marins d'Extrême-Orient.
À Manolette, tu es à Linares, par le Toro Islero.
Et celui-là, je le bois à mon pote Gédéon, tombé dans le traquenard de Langsonne.
À Roselito, le plus grand de tous.
Ben, le plus grand de tous, c'était quand même bien lui.
C'est un Saint-Jean-Hiver.
Saint-Jean-Hiver, mais le plus grand de tous, c'était quand même bien lui. C'était Jean-Paul Belmondo.
Ah, oui.
Aujourd'hui, à l'heure de l'apéro, levons notre verre pour remercier Bébel pour tous ces moments de bonheur cinématographique. Allez hop, cul sec.
Ah, vous êtes comme ça.
Oui, comme ça. Soyons comme ça. Faut alors des moments de bonheur, comme vous l'avez dit. Hein. Un Saint-Jean-Hiver d'Henri Verneuil, sorti en 1962, d'après un roman d'Antoine Blondin, avec des dialogues de Michel Audiard, le tout emmené par deux légendes. L'une déjà bien établie à l'époque, hein, Jean Gabin, et l'autre en devenir, Jean-Paul Belmondo.
Bon, ben allez, on cause de trop, on se déshydrate, hein, allez, viens.
Ben oui. Et avant de prendre la route, il parle de quoi ce film ?
Ben j'allais vous poser la question, Nicolas.
Ben oui, il parle de quoi ? Ben nous sommes en juin 1944, en plein bombardement ennemi de la côte normande, dans leur petit hôtel situé à Tigreville. Albert et sa femme Suzanne, les patrons de l'établissement, ils ont l'impression que leur dernière heure a sonné. Désespéré, Albert, qu'est-ce qu'il fait ? Il promet à sa femme d'arrêter de boire s'ils s'en sortent vivants. Et c'est ce qui va arriver. Sain et sauf, la guerre se termine et voilà Albert refusant la moindre goutte d'alcool. Et des années plus tard, Albert, il croise la route du Rhum de Gabriel. Terriblement paumé, Gabriel, il boit pour oublier, il boit pour voyager, il voit pour jouer au toréador. Donc Albert, qu'est-ce qu'il fait ? Il boit à nouveau pour retrouver le goût de boire. Bon, c'est de la tendresse alcoolisée. Hein, bon, on a déjà connu plus tendre comme tendresse. Notre histoire se déroule donc à Tigreville, en Normandie. Or, Tigreville, en Normandie,
ça n'existe pas.
Ah non, en fait, ce film, Un Saint-Jean-Hiver, il a été tourné à Villerville, un village de pêcheurs situé dans le Calvados, en Normandie, donc des pêcheurs de moules. La mytiliculture, car c'est comme ça qu'on appelle ça, y est encore pratiquée. D'ailleurs, il existe une moulière au large de la plage de Villerville. Alors moi, personnellement, ces mollusques, je les préfère avec du céleri, de l'oignon et noyés au vin blanc. Et en parlant de noyés à l'alcool...
Albert, ils me font mal aux yeux, tirons-nous.
T'as raison, va. On n'a rien à foutre chez les Français moyens. On n'appartient pas au même bataillon.
Et les calmes, qui c'est qui va les payer?
Adressez-vous à l'intendant. Nous, on paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus.
On méprise.
Oh. Sauf que nous, on va quand même honorer ce gabin, ce Belmondo. Alors, les Villers-Vallées, ce sont les habitants de Villerville, sont assez fiers de ce tournage. Et il y a 20 ans, vous devez savoir qu'une association s'y est créée. Et celle-ci a imaginé un parcours à travers les rues du village pour revivre les plus grandes scènes de ce film. Alors, sur tous les lieux où des scènes ont été filmées, vous retrouvez un panneau avec une photo d'époque et des anecdotes. Ce parcours démarre rue de la Cabine. Très belle petite rue, hein, en pavé, devant le restaurant Le Cabaret Normand. D'ailleurs, ce restaurant, c'est le café Le Cabaret Normand. C'est dans ce café, dans ce bistrot, que Jean-Paul commande un picombière et croise pour la première fois la route de Jean Gabin, dans le film, bien entendu.
Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille.
Dis donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne ?
Monsieur Hainaut, je vous interdis de tutoyer mon homme de bar. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas de la même famille.
Un homme de bar, c'est joli ça.
Un homme de bar.
Bon, au bout de la rue de la Cabine, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez de ravissantes maisons normandes aux murs colorés et aux balcons fleuris. Vous avez surtout la place du guettoir. C'est de là que les femmes des marins-pêcheurs de l'époque guettaient et attendaient leur mari. Ensuite, vous pouvez vous rendre sur la digue de Villerville. Elle est longue de 450 mètres. Elle a été construite en 1810. Elle était en bois à l'époque, mais depuis 1920, elle est aujourd'hui en béton. Allez, autre lieu.
Crottin, il y a ton espagnol qui est au carrefour.
Mais alors, c'est pas son loin d'être au carrefour.
Mais pas le faire ce qu'il fait. Ah, tu peux pas savoir.
La fameuse scène.
Ah oui, la fameuse scène du carrefour. Du carrefour de la départementale 513. Et qu'est-ce qu'il fait le Jean-Paul sur la départementale 513?
Bah, il fait le torero.
Et il joue au torero avec des voitures. Mmh. On le voit là avec sa veste tenue bras tendus, bien devant lui, en train d'éviter les voitures, alors que la foule crie « Olé !» à chaque passage. Alors juste comme ça, et je terminerai avec cette anecdote, cette scène est en réalité la toute première cascade réalisée par Bébel au cinéma.
Il est extraordinaire. Mais dites-moi, Nicolas, quand on fait cette visite, est-ce que on fait la visite à pied ?
On fait la visite à pied. On fait la visite à pied.
Et on fait la vraie visite, c'est-à-dire qu'on boit la même chose.
Ouais. Ah, ouais, alors parce qu'ils descendent,
Et est-ce qu'il n'y a pas vous, l'expert cinéma, est-ce qu'à un moment donné, ils n'ont pas réellement bu, ils n'étaient pas réellement pompés tous les deux
pour arriver à ce degré de vérité.
C'est le cas de le dire. Oui.
Eh bien oui, ils ont certainement dû boire, mais voilà, on le dit, hein, on le dit souvent, on le dit toujours, boire avec modération.
Oui, voilà.
Regarder des films de cinéma avec admiration.
Oui, et sans modération. N'oubliez pas le défi. Hein. Je rappelle aux auditeurs, on vous a lancé un petit défi tout à l'heure. Maître Galibert nous a fait un questionnaire sur la grande vadrouille. Demain, vous nous faites...
Je m'y prépare.
Oui.
Ça va être bien. Ça ne peut être que...
Mais restez encore avec nous parce que après la pause, on va se retrouver pour le bon plan du jour. Et je sais, vous, Nicolas, que vous aimez le football.
Oui.
Jules, c'est bien votre truc aussi, le foot, hein?
Oui.
Non, c'est-à-dire que non, maître.
Ah, moi, je viens d'une terre de rugby.
D'accord.
Voilà.
Donc, ça va être pour vous, Nicolas. Oui. Les garçons, vous pouvez partir en récré.
Merci.
Mais c'est un football insolite. Allez, on vous explique tout dans la suite de cette arrivée près de chez vous sur Europe 1.
Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de vous et près de chez vous.
Ça rappelle des souvenirs. On va dans le monde du football. Alors, c'est pas le vrai football, c'est un autre football, un football insolite. C'est le bon plan du jour. Vous qui nous écoutez, si ça se trouve, ça se passe près de chez vous. Ou alors, vous allez peut-être partir ce week-end ou dans quelques jours en vacances et vous rendre dans cette région. On va dans le Lot, on va parler football. Mais une partie de football assez particulière, ça s'appelle le drone soccer. Et on va en parler avec Nicolas Dubrun, qui est gérant du Zephyr Drone à Pradines. C'est dans le Lot. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour,
bonjour Nicolas.
Alors, drone soccer, il y a deux mots. Il y a le mot drone, dont on parle de plus en plus. Tout le monde sait ici ce que c'est un drone.
Bah pourquoi vous me regardez?
Oui.
Non, je regarde
pourquoi
tout le monde. Je regarde tout le monde. Un drone et soccer, qui veut dire football.
En anglais.
En états-unien. C'est bien ça, Nicolas. Mais alors, comment est-ce qu'on peut jouer? Il va falloir nous expliquer, jouer au foot avec des drones.
Alors en fait, ce sont des drones qui sont en forme de ballon. Donc ce sont des drones qu'il va falloir qu'on fasse voler, puisque nous, on ne vole pas. Donc ça s'apparente au Quidditch.
Quidditch, ça c'est dans Harry Potter.
Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est de là que l'idée est née. Alors c'est pas moi qui ai eu l'idée. Ça est né en Corée du Sud, mais en fait, ils ont eu cette idée en voyant le film. Sachant qu'on ne pouvait pas voler, ils se sont dit « mais on a des drones, il suffit de les mettre dans des cages et on va pouvoir les faire voler pour pouvoir jouer au foot ». Voilà. Donc l'idée, ça va être de mettre des buts avec les drones.
Nicolas, un drone, parce que dans le film Harry Potter, donc, ils attrapent avec la main le
vif d'argent.
Voilà, et puis,
ou le vif d'or, pardon.
Enfin, je ne sais pas, moi je n'ai pas vu Harry Potter, mais parce que là, un drone, ça se pilote. Donc,
qui pilote ?
Bah oui, qui pilote.
Voilà, donc en fait, le jeu va se jouer dans une arena. Donc c'est une cage, pour faire simple, qui fait 3 mètres de large et 6 mètres de long sur 3 mètres de haut. À l'intérieur, vous aurez des donuts, donc qui s'apparentent à des buts. Il y en a un de chaque côté. Les joueurs, en fait, vont piloter les drones de l'extérieur de la cage,
d'accord,
de l'arena.
Okay.
Et de cette manière, en fait, ils vont contrôler les drones ballons qui vont devoir aller marquer des buts comme un match de foot, comme dans tous les sports collectifs.
Okay.
Voilà.
Mmh. Ah, ça, je comprends bien. Maître, une question pour Nicolas.
Je ne comprends pas comment ça se passe, Nicolas. Il y a combien de ballons qui volent en même temps ?
Alors, il y a 2 ballons. C'est la particularité.
Ah oui, voilà. C'est
en
ça,
fait, vous avez 6 drones au total dans l'aréna. Vous avez, donc, il y a 2 équipes de 3. Dans chaque équipe, vous avez un attaquant. Qui va aider le ballon à aller marquer. Vous avez le drone ballon qu'on va voir avec un petit fanion pour le différencier des autres. Et ensuite, vous aurez un ballon défenseur. Donc le ballon défenseur aura un petit peu le rôle d'un gardien, comme un gardien de but au foot. L'attaquant va aller aider son drone ballon avec le fanion qui va pouvoir aller marquer en face pour pousser. C'est un combat dans la cage.
Mais
il va falloir se pousser, etc.
Il n'y a que 2 drones qui volent.
Non, les autres volent. J'ai l'impression, Nicolas, que moi, je suis la seule à comprendre plus ou moins. Ouais. J'imagine qu'il y a un drone que un joueur va piloter et va mettre devant le but pour empêcher le drone ballon de rentrer.
Il y a six pilotes.
D'accord.
Ah ben
d'accord.
Ouais.
Un pilote par drone. Et
c'est un drone de jeu.
Voilà, c'est exactement ça. C'est des drones de journée après.
Quand on n'a jamais piloté de drone, il faut combien de temps pour l'apprentissage du
pilotage ? En principe, de ce que je peux remarquer, c'est pas forcément les plus jeunes qui s'en sortent toujours le mieux d'ailleurs. Mais on va dire qu'aller en 10 minutes, un quart d'heure, déjà les personnes arrivent à voler.
D'accord.
Il y a un petit apprentissage, peut-être.
Voilà,
Nicolas.
Voilà.
Oui, Nicolas pour Nicolas.
Oui, ça veut dire que les drones s'entrechoquent. Le drone ballon, il peut cogner le drone gardien comme il peut cogner. Et le drone attaquant.
Oui,
et donc ils ne se cassent pas. Donc ce sont des drones.
Non, ils sont dans des cages.
Voilà.
Ah oui, c'est une sorte de billard en 3D avec un trou de chaque côté. Quoi.
Mais ils ne tombent pas les drones quand ils se percutent.
Non, c'est pas une sorte de. C'est du drone soccer. Voilà,
oui,
c'est tout. Il faut s'habituer.
Oui.
Maître, vous disiez.
Pardonnez-moi, ils ne tombent pas les drones quand ils se percutent, Nicolas ?
Ça arrive. Ça arrive. Mais après, justement, ils sont dans une cage, en fait, où vous imaginez un drone dans une cage en ronde. Hein, voilà. Et le but, justement, c'est qu'il puisse tomber, qu'il puisse se toucher sans qu'il y ait de préjudice pour l'un ou pour l'autre. Et ça leur permet de voler. Après, pareil, quand on passe sous un drone, ben, le drone au-dessus génère du vent, donc du coup, ça va vous plaquer au sol. C'est pour ça qu'après, dans un premier temps, il faut apprendre à télépiloter le drone. Et dans un deuxième temps, après, ça va devenir beaucoup plus stratégique. Il va falloir s'entendre avec ses collègues. C'est là où ça devient très
sport
intéressant.
D'équipe. Ah ouais, non, mais c'est super.
Voilà, exactement. Et c'est le premier sport d'équipe en drone, justement. C'est ce qui fait la différence. Quoi.
Ça se passe au Zephyr Drone à Pradines, dans le Lot. Nicolas, j'imagine qu'on peut retrouver toutes les informations parce que vous avez titillé notre curiosité et donc forcément celle des auditeurs d'Europe 1 pour ceux qui sont dans votre région.
J'espère.
Ou qui vont arriver dans votre région cet été. Donc Zephyr Drone à Pradines, dans le Lot. Et vous allez pouvoir vous essayer essayer au drone soccer. Merci Nicolas de nous avoir parlé de ce bon plan. On va tous aller faire une initiation et c'est du drone de loisir, comme on dit. Dans quelques instants, c'est pas un loisir, mais quand même, c'est un projet qu'il a lancé depuis le 1er août. Il est parti depuis le parvis de Notre-Dame de Paris. On va accueillir Ludovic Lesboueurs. Mais
Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
Je suis le médecin des rues, fier de faire mon job chaque jour, sans resigner, sans retenue, on trie les déchets avec amour.
Les boueurs, Ludovic, qui est parti le 1er août depuis le parvis de Notre-Dame pour rejoindre Marseille et tous les jours, plus ou moins une quinzaine de kilomètres à pied pour ramasser tous les déchets. Ludovic, objectif planète propre, vous pouvez le suivre sur tous les réseaux sociaux. Ludovic, bonjour.
Bonjour, vous allez bien, Bérénice?
Mais moi, ça va bien. Et vous?
Écoutez, on est chaos, mais on avance. Il nous reste encore une heure de marche pour arriver à Corbeil-Essonne.
Corbeil-Essonne, voilà, c'est la destination. Donc aujourd'hui, vous êtes en région parisienne. Nous, on l'a vu, on l'a senti. Beaucoup, beaucoup de vent, de la pluie également. Vous êtes rincé, en fait.
Oui, exactement. Mais ici, on a un peu de chance parce qu'on y échappe maintenant. Ah. Donc c'est formidable.
Alors, Ludovic, hier, on était à plus ou moins 300 kilos de déchets.
Alors, voilà. Alors là, j'espère que vous êtes bien assise.
Oui.
Parce qu'on va atteindre les 900 kilos.
Oh là 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 là.
C'est hallucinant. Je vais prendre un exemple. On a ramassé des bouteilles de protoxyde d'azote de 3 litres 3. C'est impressionnant. Je ne pensais pas trouver ça ici. Voilà. Donc,
les gens jettent tout, quoi.
Comment ?
Les gens jettent tout et n'importe quoi.
Oui. Tout n'importe quoi. C'est à croire que les déchetteries n'existent pas.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est 900 kilos sur votre parcours. Vous allez les déposer à chaque fois dans une déchetterie que vous croisez.
Alors, les sacs, on les met aux poubelles publiques. Et bien évidemment, après, on déclare aussi les dépôts sur les applications qui sont prédestinées à ça. Mm-hmm. Et on dépose en déchetterie, oui, tout à fait.
Donc, si vous êtes tout à fait capable et apte de le faire, cela signifie que tout le monde aussi est capable et apte de le faire, on est d'accord?
Exactement, réveillons-nous.
Oui. Est-ce que vous avez sur votre route, bon, malgré le temps pas fastoche, mais enfin on n'est pas en sucre non plus, est-ce que vous avez rencontré des auditeurs d'Europe 1 ou des personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous donner un coup de main? Et si oui, quel est le profil de ces personnes?
Alors en fait, on a énormément de klaxons, de plus en plus d'ailleurs.
Ah.
Et maintenant, on salue tous les automobilistes. Et ça devient, il y a une personne qui est venue, qui s'est arrêtée en voiture et qui nous a pris en photo.
Et donc
c'est trop bien. Mais...
Et ils vous donnent pas des petits trucs à manger pour tenir le coup, des barres protéinées?
Si, à chaque fois où on s'arrête, en fait, on va pouvoir monter une épicerie maintenant. merci. C'est juste incroyable la générosité qu'il y a autour de nous. Et surtout, on se bat tous pour la même chose, c'est la propreté de notre planète et pour jeter à la poubelle. C'est hyper important. J'ai plus de voix, mais parce que je suis très ému par ce que j'ai ramassé aujourd'hui. Et j'ai peur du résultat, vraiment. C'est incroyable.
C'est vrai qu'on se dit, tiens, 900 kilos, c'est super comme record, mais c'est un triste record. Combien de jours? 54, jusqu'au plus ou moins 24 septembre. On vous retrouve évidemment tous les jours sur Europe 1 dans cette arrivée près de chez vous. Ludovic, on vous laisse bon courage pour votre dernière heure, mais de trajet, attention, entendons-nous. Et demain, on reprendra de vos nouvelles et on parlera de ce que vous allez faire ce week-end. Ludovic, objectif planète propre, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à rester avec nous dans quelques instants. Jules qui est allé farfouiller dans ses archives, ce sera le quiz qui s'est passé juste après ceci.
Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de vous et près de chez vous.
Un, deux, trois.
Savez-vous ce qui arriva?
Non, mais nous allons le savoir, nous allons le découvrir avec Jules Bernard Leblond. Le quiz qui s'est passé, vous avez farfouillé dans vos archives et nous allons devoir, nous ici, mais vous qui nous écoutez aussi sur Europe 1, nous allons devoir deviner parmi les folles histoires que vous allez nous raconter, celles qui sont vraiment arrivées. Attention, je dis attention, ça peut surprendre. Mais parmi toutes les histoires, il y en a une qui est vraie. Alors Jules, aujourd'hui, quiz, qu'est-ce qui s'est passé à Montpellier?
à Montpellier, donc dans l'Hérault, hein, en Occitanie, si je ne m'abuse, maître.
Parfait, numéro 34, l'Hérault.
34, oui. Voilà, exactement. Il y a eu un tournoi de tennis en mois de mai, au mois de mai, pas dernier, mais 2022.
D'accord.
Dans ce tournoi, il y avait le Kazakh Alexander Bublik qui jouait. Mm-hmm. Et il a adopté un comportement, je dirais, un petit peu insolite.
Insolite.
Qu'est-ce qu'il a fait, mon Bublik? Trois possibilités. Petit A, contestant une faute signalée par l'arbitre qui le sanctionnait pour la troisième fois d'affilée, comme pour faire voir qui était le patron sur le terrain. Mm-hmm. Le Kazakh est allé, en symbole je dirais, lever la patte sur la chaise de l'arbitre.
Il a fait pipi ?
Il a levé la patte.
En symbole.
En symbole.
Ok, d'accord.
Petit B, Alexander Bublik a dû abandonner le tournoi après sa victoire contre le Français Grégoire Barrère en sautant le filet pour le féliciter. Il a trébuché, mmh. il s'est ruiné le menton sur la terre battue.
Non, mais ça, à chaque fois, quand ils le font, je me dis, mais ils sont fous, quoi. Ok.
Ou alors, petit C, il a cassé trois raquettes pendant son match, le tamis, tout, cassé. Bérénice, vous jouez au tennis ?
Un peu.
Vous jouiez avant ou quoi ?
Oui. Ouais.
Vous jouez quoi, avec un petit ami ou un grand ami? Je tiens à préciser que je ne prendrai pas de droit d'auteur sur cette vanne qui date de 1952. Alors, petit A, petit B, petit C. Donc, soit
il pipi a fait sur pipi l'arbitre.
Sur l'arbitre, soit il s'est ruiné, soit il a cassé ses raquettes trois fois.
Bon, casser les raquettes, il y en a tellement qui font ça. Puis il y a des spécialistes en cassage de raquettes, je ne donnerai pas de nom. Trébucher, moi, à chaque fois, je me dis, ouais, c'est... Maître.
Moi, je prends le ruinage de menton.
Ouais. Donc, il a trébuché, ouais. Donc le B. Ouais. Nicolas ?
Moi, je prends la vanne tombée dans le domaine public.
Donc, le petit ami. Allez, moi, je dis pipi sur l'arbitre.
Eh bien, c'est la C.
Trois !
J'ai gagné, j'ai gagné.
Eh oui. Trois raquettes éclatées en un match. C'est déjà pas mal.
Ouais.
Il a lâché prise, Alexander Bublik. Je crois qu'il pourra plus l'utiliser. Hein.
Ouais, là, il a clairement, quand on voit la raquette, il peut plus l'utiliser. Là, ça, c'est une certitude. Alors, trois raquettes en un match, c'est déjà pas mal. On est d'accord. Mais là, surtout, il les a cassées les trois en moins d'une minute.
Ah mince.
Et exprès.
Trois raquettes en moins d'une minute.
C'est-à-dire qu'il il supportait pas de perdre 6-0 dans le jeu décisif du troisième set. Du coup, il a pété sa raquette en éclatant par terre. Gna, 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 des coups de pied dessus et tout ça. Oh. Il était très, très énervé. Puis, il est allé calmement à son banc. Il a ouvert son sac. Zzz, vous voyez, petite fermeture éclair, le zip. Il en a sorti une raquette. Clac, clac, clac. Il a explosé par terre encore. Enfin, afin de satisfaire un dernier soubresaut d'énergie.
Moi, j'en ai 203.
D'énergie positive et constructive, il a défoncé une dernière raquette sur le sol. Voilà. On leur pardonne tout aux sportifs. Alors que moi, ça fait 3 ans que je perds à tout, pas 3 ans, mais ça fait 3 semaines donc, que je perds à tous les quiz de Maître Galibert. Hein, j'ai pas éclaté mon micro par terre. Hein, voilà, c'est
pas encore.
Comment ça coûte une raquette de sportif de haut niveau comme ça?
Oh,
ça coûte cher. Non, mais voilà.
Je n'ai jamais été sportif de haut niveau.
Non, mais de toute façon, ça se fait pas. Non, mais, non. N'importe quoi. Bon, Jules, restez parce qu'on va partir du côté de Roubaix.
Ah, oui.
J'ai l'impression. Allez, un dernier pour la route, j'ai envie de dire, Jules. En même temps, je devrais pas trop vous dire ça. Un quiz qui s'est passé, donc une information totalement insolite mais vraie. Quiz qui s'est passé à Roubaix.
Ah oui, alors on retourne à Roubaix parce qu'on est déjà allé à Roubaix cette semaine.
Oui.
Mais il faut ça.
Ah, puis, bah oui,
parce qu'il faut dire que les Roubaixiens sont chauds patates. Donc on est bien dans le nord, hein, département numéro 59, on est dans les Hauts-de-France. Il y a un gars dans les rues de Roubaix, on parlait, là, on était vers Glen MacArthur. C'est comme ça que ça s'appelle l'endroit où il y a les solderies, on l'avait évoqué. Il faisait du rodéo urbain avec sa moto, vous voyez.
Sur le parking.
Voilà, dans la rue.
Dans la rue.
Il faisait des roues, hein, des roues arrière, comme on dit. Voilà. Et il a fui la police, comme ça, sur sa roue arrière.
En wheeling.
Sur la roue arrière. Une insolence crasse, peut-être, ou un challenge sportif, ou voir le goût du risque. Non, il avait une simple raison à ça. Il n'avait plus de roue avant à sa moto. Donc, évidemment, il a été obligé de fuir comme ça.
C'est une roue.
Comment ?
Sur une roue.
Sur une roue, absolument. La roue, évidemment, fraîche ou fake news.
Nicolas ?
Vrai, vrai.
Ouais, maître ?
Moi, j'ai envie de dire vrai aussi, bien sûr.
Ouais. Moi, pareil.
Non, c'est une fake news.
Oh, mais c'est pas vrai.
Notre ami cascadeur des rues a bien pris la fuite, effectivement. Il faisait effectivement du rodéo urbain, il a pris la fuite, il a échappé à la police. Et dans sa fuite, il a perdu sa casquette. Vous voyez, il a perdu sa petite casquette. Et quoi ?
Il n'avait pas de casque.
Ah ben non, il n'avait pas de casque, il a perdu sa casquette, ça n'allait pas. Alors donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? Une recherche ADN a permis de l'identifier. Non, non, on n'est pas NCIS, enquête spéciale New York City. Hein ? Non, 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 on est à Roubaix, journée normale, hein, donc c'est pas pareil. Hein. La casquette a donc évidemment été récupérée par la police qui l'a mise au, bêtement aux objets trouvés, hein, ouais, tout simplement. Seulement, quelques heures après avoir échappé à la maréchaussée, notre Roubaisien, vous allez voir comme le gars est finaud, l'homme qui tombe à pic, on va l'appeler, il est allé au commissariat pour savoir si on n'avait pas, par hasard, trouvé sa casquette.
Mais non.
Et voilà.
Mais non.
Ah ben là, on a affaire à une flèche. Hein. Le gars, c'est un grand nerveux. La police, évidemment, ne lui a pas passé sa casquette, mais des menottes, toutes neuves. Voilà. Laissez-moi vous donner, peut-être, à entendre ce dicton de motard qui me semble fort à propos. L'agent ne fait pas le bonheur. Là, on lui a tout pris. Voilà.
Oh,
ne faites pas de rodéo urbain, voyez-vous. J'ai une petite histoire de rodéo urbain aussi, peut-être à vous raconter sur Lyon pour la semaine prochaine.
Pour la semaine prochaine, ouais, ah, ouais, dites ouais. Donc. Bah, très bien, faites attention quand même à vous, on ne fait pas ça. Et puis pour une casquette. Bon, ça va être le moment de jouer pour tenter de gagner un panier garni. On va jouer avec le quiz des régions. Maître, on va où?
J'allais le dire.
Très bien. 7-39-21, vous envoyez le mot-clé région pour jouer avec nous. À tout de suite sur Europe 1. Le quiz des régions, deuxième partie, parce que dans la première heure, c'est Patricia qui a joué du côté de Nevers. Enfin, elle a joué avec la ville de Nevers. Elle a fait carton plein. 10 bons points. J'espère que ça ne va pas vous effrayer. Vous qui êtes peut-être en train de vous inscrire en envoyant le mot-clé région au 739-21, 75 centimes plus le coût d'un SMS, suivi de votre prénom et de votre numéro de téléphone. Parce que sachez que si vous envoyez un SMS, mais même si vous ne jouez pas avec nous, tous les envoyeurs de SMS font partie de la grande liste pour le tirage au sort pour la fin de l'été, le 25 août, pour peut-être partir avec un an de vacances grâce à leboat.fr. 4 semaines de vacances à vivre avec 4 personnes partout en France où il y a de l'eau. On s'entend. 50 ans d'expérience quand même, hein, le boat. Vous pouvez déjà préparer vos vacances pour rêver, voilà, pour voir un petit peu comment ça se passe en allant sur leboat.fr. Avant cela, nous devons déterminer une région, un département et une ville, maître.
Pour la région, sachez, messieurs, dames, qu'elle se partage entre une zone de tradition latine et une zone de tradition germanique.
Alors, le Grand Est ?
Mais oui, le Grand Est, qui regroupe les régions culturelles et historiques d'Alsace, de Lorraine et de Champagne, et 10 départements. Alors, un terreau surprise sur les départements de la région Grand Est, messieurs, dames. Parce que là, nous sommes aujourd'hui le 3 août, nous travaillons ensemble depuis le 10 juillet, donc on va voir si vous avez retenu. Nous sommes avec les départements de la région Grand Est. Département numéro 10.
L'Aube.
Oui, vous avez la préfecture ou pas ?
3.
Oui, bien sûr. 51.
La Marne.
La Marne, la préfecture.
Il y en a une qui lit pas assez vite et l'autre qui lit très très vite.
Non, moi je dis pastis.
La Marne, 52.
La Haute-Marne.
Oui, 54, préfecture Nancy.
On l'a fait tout à l'heure.
Meurthe-et-Moselle.
Oui, exactement, bravo. Bar-le-Duc, préfecture du numéro 55.
56.
Meuse. Oui, parfait. Bon, le 57, Metz. Là,
bah,
vous l'avez. Vous,
bah, non, c'est Moselle.
C'est Moselle.
Ouais,
c'est
Moselle. Moselle.
Strasbourg, vous l'avez aussi, 67.
Le Bas-Rhin.
Oui. Colmar, 68.
Le Haut-Rhin.
Bien sûr. Ah, peut-être un petit peu plus difficile. 88, Épinal.
Les Vosges.
Les Vosges, bravo. Et on va terminer par le département qui nous intéresse aujourd'hui, qui est limitrophe de votre pays, Bérénice, de votre royaume. Le numéro 8.
Bah, les Ardennes.
Les Ardennes. Nous nous arrêtons donc dans le département.
Non, c'est le 8.
Le 8, c'est le 8.
Le 8.
Nous nous arrêtons. Pas mal, l'interro, hein, pas mal. J'ai pas, vous, par contre,
mais
pas,
il y a trop de devoirs dans cette émission. Moi, on me demande de faire des devoirs, de regarder des films. On me demande de faire des devoirs avec maîtresse Clara. On me demande de faire des devoirs. Moi, je suis en vacances.
Non, on travaille.
Je veux dire une chose, c'était pas mauvais, c'était très mauvais.
Mais oui, je me doute bien.
Voilà. Donc, nous nous arrêtons dans le département des Ardennes. Et la préfecture des Ardennes, c'est Charleville-Mézières qui va nous intéresser particulièrement. Oh. Fusion en 1966 de Charleville et de Mézières. La ville est située. Eh oui,
comme
la fusion
par
de deux
hasard,
communes, bien sûr. Mais c'était pas. Non, c'était pas si évident que ça. La ville est située à 10 km de la frontière belge, à 90 km au sud de Charleroi, à 108 km au sud de Namur et à 150 km de Bruxelles, ainsi qu'à 130 km à l'ouest du Luxembourg.
Et à 7800 km de Porto Rico.
Eh bien, comme l'a dit un grand philosophe belge, À quoi ça sert les frites si t'as pas les moules ? Ah, vous avez 2 heures. Enfin, sur Europe 1, vous avez rendez-vous du lundi au vendredi de 12h à 13h avec Europe 1 Midi, présenté par Alexandre Chauveau et la rédaction d'Europe 1. Ils font le tour complet de l'actualité à la mi-journée avec des invités, des experts, des témoignages. Vous, des auditeurs, des débats sur les grands sujets qui préoccupent les Français. Et donc, si vous avez envie de donner votre avis ou de participer à l'émission, n'hésitez pas. Vous pouvez nous laisser vos coordonnées en appelant Europe 1 au 01 80 20 39 21, un numéro non surtaxé. Notez-le bien, 01 80 20 39 21. Et rendez-vous donc dès demain à midi pour Europe 1 Midi.
Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
Charleville-Mézières. C'est la ville avec laquelle vous allez jouer, ma chère Jocelyne. Bonjour.
Bonjour Bérénice et bonjour toute l'équipe.
Bonjour.
Saint-Léon, c'est près d'Agen, c'est ça ?
C'est entre Agen et Marmande.
Et ça, c'est dans le Lot-et-Garonne ?
Voilà.
Yes, là, j'ai réussi. Ah, j'ai gagné quoi ? Alors, Jocelyne, pour un petit peu mieux vous connaître, donc là, on sait où vous êtes, et vous avez une passion qui m'interpelle, je trouve ça très chouette, vous aimez bricoler. Mais qu'entendez-vous par bricoler, Jocelyne ?
Tout, bricoler, peindre, poncer, tout. J'aime bien.
Ah oui, c'est quoi le dernier travail que vous avez fait ? Le dernier bricolage que vous avez fait ?
Oh ben là, on ponce et on a une maison en bois, alors on ponce, on peint avec mon mari.
Ah ouais, voilà, tout le monde. Ah bah oui, c'est sympa,
voilà.
Ça. Ah ouais, ouais,
voilà.
Oh, quand même. Le Lot-et-Garonne, Charleville-Mézières, je vous l'avais compris,
ça va pas, ça.
Je ne suis pas très douée en géo, mais j'ai l'impression que ce n'est pas juste à côté, ce n'est pas dans le quartier. On est d'accord ?
Non, puis on n'y va pas. Non.
Ah, vous n'y allez pas. Pourquoi ?
Ben disons, on y est passé peut-être.
Ah, peut-être.
En vacances.
Mais vous n'êtes pas arrêté.
Je ne connais pas. Non,
Jocelyne. Bon, Patricia a mis la barre très haut, hein. 10 points.
J'ai vu, félicitations à Patricia.
Oh, bah déjà. Soyez la bienvenue, je vous laisse avec Maître Galibert. Bonne chance.
Jocelyne.
Bonjour Maître.
Bonjour Jocelyne. Oui. Question numéro 1. Charleville-Mézières. Les habitants de Charleville-Mézières sont appelés les Carolomacériens. Vrai ou faux ?
Ben, je dirais vrai.
Mais oui, vous avez raison. Alors, avant la fusion que nous avons évoquée tout à l'heure des deux communes principales en 1966, les habitants de Charleville étaient les Carolopolitains et ceux de Mézières, les Macériens. Et ça a donné les Carolomacériens. Bravo, un point. Question numéro 2. Jocelyne, quel poète est né à Charleville ? Petit A, Paul Verlaine. Petit B, Arthur Rimbaud.
Rimbaud.
Verlaine était né à Metz, Rimbaud à Charleville, 2 points. Je ne résiste pas. Vous m'accordez ?
Je vous en prie.
Vous l'accordez, hein ? C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Le dormeur du val, Arthur
Rimbaud. Aurel
San ?
Ah, pardon.
3 points sans faute pour l'instant, Jocelyne.
Bon, l'honneur est sauf.
Oui, ça va. Question numéro 3. 3 propositions de réponse, 3 points. Charleville est baptisé ainsi en hommage, petit A, à Charles de Gaulle, petit B, à Charles de Gonzague, petit C, à Charles Baudelaire.
Je dirais, on va faire au hasard, hein. Charles de Gonzague.
Mais oui, excellent, Charles de Gonzague, membre de la maison de Gonzague-Nevers, un Italien Carlo I Gonzaga, prince de son état, fit construire Charleville en 1606.
Ça, c'est de l'italien version
espagnol.
Ouais,
je l'espère plus hispanisant.
C'est l'italien de Madrid.
Ouais, l'italien de Madrid, ouais.
Je vous l'accorde. Attention là, parce qu'il y a égalité si Jocelyne marque là.
Hein. Ah bah, là, désolé, je suis obligé de le dire, elles sont fortes. Ah,
elles sont très fortes.
Elles sont fortes. Celles-là.
Question numéro 4. Une des spécialités des Ardennes et de Charleville-Mézières est la cacasse à cul nu.
Comment dites-vous ?
La cacasse à cul nu.
Oui, d'accord.
Ah oui, j'en ai connu une.
La cacasse à cul nu, qu'est-ce que c'est, Jocelyne ? Petit A, une comptine locale. Petit B, une statue symbole de la ville. Petit C, un plat typique des Ardennes. Petit D, une position du Kama Sutra ardennais.
Vous pouvez répéter.
Une comptine, une statue, un plat ou une position du Kama Sutra. La cacasacule. La cacasacule. Un plat.
C'est bizarre.
Hey, la cacasacunu, c'est un plat typique et symbolique de la cuisine ardennaise. Je vais vous expliquer. C'est à l'origine un plat simple et nourrissant, une fricassée de pommes de terre cuite dans une cocotte en fonte que les personnes les plus modestes à l'époque consommaient quand la viande était inabordable. Il n'y avait pas de viande. Acunu signifie l'absence de viande. La cocotte servant à la préparation étant uniquement frottée un peu avec une barde de lard. La cacasse se déguste aujourd'hui culotté, c'est-à-dire avec une saucisse fumée et des tranches de lard.
Qui a du cacasacunu?
La cacasacunu.
La cacasacunu. La cacasacunu. Alors j'aurais dit que c'était une statue.
Non, non, non. C'est un plat. Non, et Justine a fait un sans faute.
Ouais, moi, je savais que ce n'était pas une position du Kama Sutra ardennais parce que je les connais toutes. Non, je plaisante.
Vous avez fréquenté les Ardennais?
Ah bah oui, bah c'est chez moi parce qu'il y a les Ardennes belges, vous voyez. 1 plus 2 plus 3. Bah oui, bah vous venez de le dire.
10, Justine, bravo.
Alors, est-ce que nous avons Patricia avec nous? Patricia, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Patricia, Jocelyne, Patricia, avec cette musique, on les imagine toutes les deux sur un ring. Qui va mettre KO l'autre? Bon, pour vous départager, on vous a posé une question hors antenne, une question que nous qualifierons de subsidiaire, et celle...
Arrêtez ce suspense!
Celle qui se rapproche le plus de la bonne réponse, et celle qui repartira avec ce très beau panier garni loup de mer, composé de délicieux produits régionaux, avec entre autres une bouteille de muscat des Sèvres et mène sur lit, un pot de caviar marin, de carottes et wakame, un tartare d'algues au capre, un pot de rillettes de merlu au poivre vert. Ça va au niveau du suspense?
Arrêtez, j'ai pas fini. Je n'y tiens plus.
Bah parce qu'il y a encore un pot de rillettes de truite de Bretagne et, et de la fleur de celle de Guérande. Donc à un moment donné, voilà. Qui?
Allez.
Qui a du caca? Ah pardon. Qui se rapproche le plus de la bonne réponse? C'est Patricia.
Ouais. Ouais. Bravo Patricia.
Bravo à vous.
Merci.
Patricia. Jocelyne, vous ne repartez pas les mains vides. Bravo pour aussi. Bien préparer votre rentrée, Jocelyne. Nous vous offrons un ensemble de fournitures scolaires MAPED. Avec MAPED Smiling Planet, hein, donc il fait attention à la planète, attention. Il y a toute une gamme éco conçue et durable avec une trousse, taille crayon, gomme, compas, ciseaux, ardoise, crayon de couleur. Donc pour déjà vous préparer à la rentrée, même si on ne sauve qu'au mois d'août. Et puis surtout, Jocelyne, Patricia, toutes les deux, rendez-vous le 25 août. Soyez bien à l'écoute d'Europe 1 entre 16h et 18h. Enfin, même plus, hein, bien sûr, si vous voulez, à consommer sans aucune modération. Mais ce jour-là, nous ferons le grand tirage au sort pour savoir qui repartira avec un an de vacances grâce à LeBoat, leboat.fr. Merci mesdames, belle
merci
journée.
Beaucoup.
À très bientôt, merci d'avoir merci. Joué avec nous. Et vous qui nous écoutez, vous pouvez déjà envoyer un SMS, hein, région au 739 21 pour jouer avec nous, pourquoi pas dès demain, parce que demain on se retrouve à partir de 16h, 16h, 18h sur Europe 1 pour cette arrivée près de chez vous. Je prends déjà les présences pour demain, Nicolas Beutars.
Mais j'ai tellement de devoirs que je vais partir maintenant.
Vous
parce
partez
que...
maintenant, c'est vrai qu'on vous a lancé un défi, donc avec la grande vadrouille Jules Bernard Leblond.
Je serai là.
De toute façon, vous restez en col jusqu'à demain matin. Oui. Maître.
Présent.
Présent aussi. Eh bien, nous serons là et vous, certainement, on le souhaite. Europe 1 soir, c'est maintenant, tout de suite, avec Wilfried De Villers.
Europe 1, c'est arrivé près de chez vous.